située à une quarantaine de kilomètres de Yaoundé et à une vingtaine de Saint, Kolba est une petite localité nichée au cœur d'une forêt dense aux différents arbres et feuillages. Les verrières, ces arbres, ces villages, les autres, permettent aux riverains de se baigner. De faire à la cible et même de pêcher du poisson d'eau douce. La plupart des maisons sont construites en terre battue. Les cuisines sont assorties de lions en boue. Des paniers sont accrochés au-dessus des foyers en feu de bois pour fumer la viande. Le poisson ou la rachie. Ici, régime. Cuisinière et réfrigérateur ne sont partis des usages. Les femmes sont généralement debout de bonheur pour apprêter les enfants qui vont à l'école à une dizaine de kilomètres du village. Elles en profitent pour réchauffer le reste de nourriture de la veille qui constitue le petit déjeuner de la famille.
Et ça va pas.
Les hommes, quant à eux, se lèvent paresseusement, s'appellent à miner leurs machettes et manger avant de se rendre au champ.
Deuxième étape.
La distance des champs varie selon qu'on est propriétaire d'un terrain à côté de son habitation ou non. L'élevage est une activité secondaire pratiquée à but non lucratif. Les animaux domestiques élevés autour des concessions sont réservés pour les événements familiaux et particuliers. Attrapés à l'aide des pièges tendus par les hommes dans la brousse, le gibier vient souvent réchauffer le contenu de la cocotte des ménagères. Le poêle. Feuilles du manioc pilé sans sel, accompagnées du manioc, est le mets traditionnel classique et quasi rituel du village. Ici, les populations vivent essentiellement d'agriculture. Une partie de fruits de cette activité est réservée à la consommation quotidienne et l'autre transportée vers la capitale politique pour être vendue. Ainsi, les frais générés par la vente de ces livres serviront à acheter le nécessaire dont on a besoin pour survivre au village. Pétrole, allumettes,
poissons fumés,
riz, etc. L'accès au village est souvent difficile en saison pluvieuse à cause du tronçon de route non contrôlé qui relie et ce à l'étranglement. Les voyages vers la capitale se font principalement la nuit. Grâce chaîne des auteurs. En état de la comment avancer, appeler au peuple des picots, le glambeau. Il arrive que les habitants de Goma apprennent un véhicule de transport pendant deux jours, à la suite desquels le chauffeur décidera de transporter les uns au détriment des autres. Goma n'a ni électricité ni eau potable. L'eau des sources et des rivières. L'eau des sources et des rivières est consommée à l'état naturel, sans aucun traitement préalable. Que je suis né. Je suis venu au monde en cause d'un énorme souci à ma mère dans un dispensaire du village voisin situé à 4 km environ. C'est que mon existence ne sera pas longue de tranquille. Mais une succession d'épreuves cet accouchement, le tout premier de ma mère, sera aussi son dernier, ce qui me rendra la relation incontestable d'enfant unique de ma mère.
Je savais que ma mère était décédé lorsque j'avais 2 ans. Et je n'en avais pas de souvenir. Certainement d'un père que je n'avais jamais vu. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'à la place du père, sur mon acte d'état civil, on avait écrit père inconnu. La prononciation de ces 2 mots par le directeur de l'école en classe fut une vraie surprise et un traumatisme qui se poursuivait par 1000 questions qui défilaient dans mon esprit et me laissaient, hélas, sans réponse. Pourquoi n'y avait-il pas le nom de mon père sur mon acte? Qui était mon père, si jamais j'en avais un? Un enfant ne naît-il pas d'un père et d'une mère? Pourquoi ma mère est-elle décédée si jeune? Pourquoi je n'avais ni sœur, ni frère? Autant de questions qui allaient faire de moi un être fragile et angoissé face au contexte familial. Ce soir-là, je rentrais de l'école meurtrie, traînant les jambes. Mais je ne posais aucune question à ma grand-mère. Sachant que ma situation paternelle était un tabou dont personne ne s'engageait à en parler. Un tabou qu'on n'abordait jamais en famille et que tout souvenir concernant ma défunte maman était une source de souffrance et de larmes pour ma grand-mère. Je préférais donc souffrir en silence, portant le poids de toutes ces questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Le poids de ce flou pesait énormément sur le petit être d'une 12aine d'années que j'étais à cette époque-là. Je ressentis frayeur. et angoisse. Et je me mis à prier profondément et longuement, au point où je m'endormis sur ma Bible à moitié ouverte sur le lit. À 4 heures du matin, mon téléphone sonna. C'était le numéro de mon ami. J'ai tressailli et tout se bouscula dans ma tête. A-t-il eu la force de m'appeler? Et alors, c'est encore son neveu qui voulait m'annoncer le pire. Finalement, je décrochais et le neveu en pleurs me lança. Marido, mon oncle est parti. Il est parti. Au souvenir de chaque mot qu'il prononça, les larmes me montent encore aux yeux au moment où j'écris ces lignes. Et lui, ces choses-là, lorsqu'elles nous tombent dessus et semblent complètement nous écraser, elles nous marquent pour la vie. Mais le présent peut cicatriser ces blessures pour qu'on fasse le reste du chemin avec paix et sérénité par la grâce de Dieu. Je pleurais à chaudes larmes, toute seule dans mon studio que je louais à l'époque. Je criais, je suffoquais, je maudissais la terre, le ciel. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas possible. Non, je ne pourrai plus le voir, l'entendre, le toucher. Il était devenu un cadavre. Oui, c'est ça. Un cadavre qu'on jettera à la morgue le même jour. Et ensuite, il sera inhumé. Et puis, il ne restera que des souvenirs. Je me disais toutes sortes de bêtises en ce moment-là. Je pensais et me disais intérieurement que ça commençait à bien faire. C'est quoi cette vie de chien? C'est ça le destin. J'ai fondé les liens de sa mort et ils me consolèrent comme ils purent. Mais à vrai dire, j'étais inconsolable. 5 semaines passèrent et ce fut le week-end des obsèques. Mon calvaire commença à la morgue. Au moment de faire le tour du cercueil, je jetais un coup d'œil sur mon ami et j'imaginais combien il avait dû souffrir. Car son visage avait durci, noirci et maigri. Je dus m'appuyer sur son neveu Michael, qui comprit très vite qu'il devait me tenir le bras pour que je ne m'écroule pas. Venu de Yaoundé pour m'assister, ma cousine m'accompagna au village. Je passais la nuit à pleurer. J'avais tellement mal qu'on aurait dit qu'une femme mon cœur se trouvait dans le cercueil de mon ami. L'inhumation terminée, ma cousine et moi partîmes pour Yaoundé. Tout le monde s'apitoyait sur mon sort. Les mois qui suivirent la disparition de mon ami furent insoutenables. Ils me marquaient cruellement. Ses multiples coups de fil, ses attentions, son humour, ses visites, son élégance, sa joie de vivre me manquaient. Je souffrais intérieurement et la déprime se lisait sur mon visage. Je n'arrivais pas à faire mon deuil parce que je n'acceptais pas sa mort. J'étais en colère contre ce sort et je le récriminais contre Dieu. Aussi, regrettais-je de ne pas avoir assez fait, de n'avoir pas su lui dire tous les jours combien il comptait pour moi, de ne l'avoir pas embrassé tous les jours, de n'avoir pas passé plus de temps avec lui quand il était en vie. Et là, il se faisait tard. De plus en plus chétive et anxieuse, je ressentais des crampes et des brûlures dans mon estomac. Je consultais un médecin qui me prescrivit un traitement adéquat. Mais je ne fus pas soulagée. Un mois après, je retournais le voir et m'expliquais que la douleur était lancinante et grandissante. Elle changea d'ordonnance et me fit quelques recommandations par rapport à mon alimentation. À ce stade, je ne me rendais pas compte que ni l'alimentation, ni les médicaments n'avaient le pouvoir de panser l'intérieur d'une plaie profonde. Ne trouvant pas d'apaisement, je fis appel à des traitements thérapeutiques. J'étais à un an de traitement sans succès d'un mal-être permanent et profond. À la énième consultation pour mon œsophage brûlant, le médecin me demanda comment je vis. Je me livrais à l'exercice. Et je lui racontais mes dernières années de vie. Elle me suggéra de sortir pour aller au cinéma, danser, voir des amis, voyager. Je lui rétorquais que je préférais regarder des films à la télévision. Un bon psychologue, elle décryptait la différence de l'ambiance sympathique et excitante des salles de cinéma par rapport à la vision solitaire d'un film qui me regarde. plongeaient certainement dans mes douloureux souvenirs. Je dus me rendre compte que mon caractère extraverti s'était éteint depuis plusieurs mois. Et je ne me sentais bien que lorsque je me retrouvais seule dans mon enfermement. Prendre conscience était déjà un début de solution, mais malheureusement, je ne disposais plus de force pour sortir de cet enfer par ma simple volonté.
Nous allons faire tout à tour. Nous sommes tous là, à l'Estadie Florian, et je vous souhaite qu'ils ont planté le décor. Dans la première partie, vous avez vu trois justement, on vous a présenté le village. Voilà, le village. Comment ? C'est bien ça ? On ne connaît pas. Ça va toujours être mieux. Et dans une deuxième partie, vous avez certainement retenu, c'était le dessin. Le dessin des quelques pierres du mur de France, c'est le mur qui a dû traverser le terre. Elle nous en parlera tout à l'heure. Elle nous a fait vivre les épreuves qu'a traversé le terre. Est-ce qu'on parle de terre de vie? Et après, c'est la grande gloire de la Florian et Isakoko Bala. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, la parole de Dieu nous enseigne que Dieu siège au milieu de la manche et que tout ce qui vit, nous, l'éternel, comment ne pas commencer justement par le faire plaisir en l'aidant à ses yeux au milieu de nous. Daniel et Monique pour la louange au Seigneur. Daniel et Monique.